d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Après les émissions sur les poilus face à la mort, j'ai choisi un sujet beaucoup plus léger. Le divertissement. Pas n'importe lequel. Le divertissement imbécile. Celui que l'on regarde sans penser, l'esprit libre de toute angoisse, que l'on regarde en riant ou en s'affligeant. Avez-vous remarqué que notre société se croit toujours plus innovante, plus intelligente, plus subversive que celle des siècles passés, et en particulier de celle du XIXe siècle, qu'il est de bon ton d'imaginer triste, frustrée, ennuyeuse, et j'en passe. Lorsque j'écoute mes contemporains, j'ai l'impression qu'ils ont tout inventé, même le rire et les divertissements imbéciles. Aujourd'hui, à cette heure du jour et de la nuit, nos différents appareils peuvent faire entrer dans notre intérieur la distraction abrutissante, parfois nécessaire pour chasser le cafard. Je me souviens en 1971 d'une chanson de Patrick Topalov, « J'ai bien mangé, j'ai bien bu », affligeante d'insignifiance. Je vous laisse juger.
J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit. Y'a mon cousin garçon qui m'impose le bonbon, et ma tante Amélie qui me fait la folie, ma maman est en haut qui me fait des gâteaux, mon papa est en bas pour me faire deux œufs sur le plein. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. Depuis que je suis né, je ne fais que manger. J'ai beau crier famine, j'ai toujours mauvaise mine. Y'a mon grand frère Henri qui me garde bouillie, et ma petite sœur Thérèse qui rit quand elle me cueille les fraises. Voilà, avec moi parce que je suis fatigué. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre super tendue. Merci petit Jésus. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre super tendue. Merci petit Jésus. J'ai bien mangé.
Combien pensaient alors que la bêtise envahissait notre monde, qu'à leur époque, enfin tous les lieux communs habituels débités à toutes les époques par les nostalgiques de leur jeune temps, temps passé idéal selon eux. Je vous fais grâce de la danse des canards, à la queue-leu-leu et autres inepties qui furent les grands succès des mariages, des fêtes populaires et des campings. Je peux remonter aussi aux années 60 avec Antoine et ses cheveux longs, Nino Ferrer et son téléphone, Dutronc et son « et moi ». Et la liste serait longue de ces chansons que nous avons tous entonnées à un moment ou à un autre de notre vie.
Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer au voisin. Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi ? Son petit, ici, 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 ni oui.
Je ne sais pas si l'homme de Néandertal chantait ce genre d'imbécilité, mais au XIXe siècle, elle pullulait. Seulement, au lieu de les recevoir par les ondes, l'on se déplaçait en foule pour voir et entendre Teresa chanter les canards tyroliens, chanson écrite en 1869 par les frères Cognard. Deux auteurs prolifiques d'opérettes, de vaudevilles, de revues, de féeries. Voici donc les canards tyroliens, chantés en 1930 par Yvonne Gabaroche.
Quand les canards s'en vont par deux, c'est qu'ils ont à causer entre eux. Les passants n'y comprennent rien, mais eux, malins, ils se comprennent bien. Ils se disent comme ça, des jolis riens. Coin, 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 quand c'est des canards tyroliens. Trahili, oulahi, trahili, oulahi, trahili, oulahi, ti, ti, ti. Quand les canards s'en vont par trois, ça donne à penser aux bourgeois. Y a-t-il deux canards et un canard, ou bien deux canards par hasard? Ils disent comme ça, des jolis riens. Coin, 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 coin. Coin, 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 quand c'est des canards tyroliens. Trahili, oulahi, trahili, oulahi, trahili, oulahi, ti, ti, ti. Trahili, oulahi, trahili, oulahi, coin, coin, coin. Quand les canards s'en vont en tas, c'est que ça leur plaît, ça ne vous regarde pas. Ils ne s'occupent pas de votre société. Laissez leur don, leur liberté. Laissez leur dire leur joli rien. Coin, 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 coin,
En décembre 2022, un chanteur dit populaire, Francky Vincent, connu pour son chef-d'œuvre « Tu veux mon zizi », est devenu sous l'égide de la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, chevalier des arts et des lettres. Je finis par penser que les mots n'ont plus de sens et que les ministres de la Culture sont devenus au fil du temps les ministres de l'inculture et même de la bêtise. Carlos, chantant Papa Youlélé ou Big Bisou, était en fait un poète. Au XIXe siècle, ces divertissements grossiers avaient aussi leurs adeptes. Mais jamais les artistes, malgré leur célébrité, ne furent médaillés par un gouvernement quelconque. En revanche, la cour ou les salons mondains pouvaient leur être ouverts. Ce fut le cas pour Teresa, cette chanteuse qu'aujourd'hui on nommerait une star. Avec ses bons gros yeux de vache, ainsi que l'a décrit Maurice Dreyfus, journaliste et éditeur connu à son époque, oublié aujourd'hui, Teresa donc était née dans une famille pauvre et elle sut devenir riche grâce à ses chansons et à son sens des affaires. Elle est à l'origine, avec quelques autres, de l'industrie du spectacle, du showbiz, quoi. Elle ne brillait pas par sa distinction et était surnommée la muse de la voyoucratie ou encore la diva du ruisseau, en référence à son origine familiale. Après des débuts fort timides, elle eut l'idée en 1962 de mettre de côté ses romances pour devenir une chanteuse tyrolienne. Son succès fut fulgurant. En un mois, le tout Paris se précipita à l'Alcazar pour entendre ses yodels, auxquels elle rajouta peu à peu ses romances canailles. Voici ce que Louis Veuillot, ce journaliste et pamphlétaire génial, écrit dans Les Odeurs de Paris à propos de Teresa. « Je ne la trouvais point si hideuse que l'on m'avait dit. C'est une fille assez grande, assez découplée, sans nul charme que sa gloire, qui en est un, il est vrai, du premier ordre. Elle a, je crois, quelques cheveux, sa bouche sans faire le tour de la tête, des dents de requin. Elle sait chanter. Quant à son chant, il est indescriptible, comme ce qu'elle chante. Il faut être parisien pour en saisir l'attrait. Cela n'est d'aucune langue, d'aucun art, d'aucune vérité. Cela se ramasse dans le ruisseau, mais il y a le goût du ruisseau, et il faut trouver dans le ruisseau le produit qui a bien le goût du ruisseau. Elle joue sa chanson autant qu'elle la chante. Elle joue des yeux, des bras, des épaules, des hanches, hardiment. Rien de gracieux. Elle s'exerce plutôt à perdre la grâce féminine. Mais c'est là peut-être le piquant, pointe suprême du ragoût. La musique a le même caractère que les paroles, un caractère de charge corrompue et canaille, et d'ailleurs morne comme la face narquoise du voyou. Quant au Goncourt, il nous laisse quelques anecdotes croustillantes dont ils ont le secret. Celle que je vais vous lire concerne Teresa, bien sûr, mais aussi Aurélien Scholl, le boulevardier célèbre pour son esprit. Scholl me disait ces jours-ci qu'en revenant d'un dîner avec des amis, il avait ramené chez lui Teresa. Il était saoul, si saoul qu'en rentrant, il s'était mis à pisser quelque part. C'était dans sa bibliothèque. Teresa, ne voulant pas se déshabiller, s'était assise sur le pied de son lit et les deux pieds sur deux chaises s'étaient offertes à lui de la façon des femmes à 5 francs. Puis, la chose faite, lui avait dit que malgré tous ses succès, une chose lui manquerait dans sa vie. Il lui fallait un homme posé qui fût carrément son amant. Et lui faisant l'honneur de le prendre pour cela, elle lui proposait de le mener aux courses le lendemain. Teresa avait alors 28 ans, c'était en 1865. 20 ans plus tard, en 1884, alors qu'elle n'a que 47 ans, Teresa est considérée par Edmond de Goncourt comme une vieille femme. L'anecdote se situe lors d'un déjeuner officiel avec écrivains à la mode et journalistes. Et comme plat monté de ce déjeuner, la vieille Teresa avec sa lippe de l'homme à la tête de veau et la vieille Léonide Leblanc avec ses dents de perles et encore une jolie lueur de l'œil dans sa petite figure ratatinée. Petite parenthèse, Léonide Leblanc était une courtisane extrêmement célèbre. Enfin, Teresa chanta. Elle chante la chanson, elle chante le conte bleu, et malgré ma répulsion pour la femme monstre, je ne puis m'empêcher de reconnaître que c'est une artiste supérieure. Elle vous fait passer derrière la nuque le petit frisson que seules mettent les grandes comédiennes. Elle chantera jusqu'en 1893, année de sa représentation d'adieu. Puis elle se retirera dans la Sarthe, où elle mourra en 1913. Teresa fut la coqueluche du Second Empire et fut invitée même à chanter devant l'empereur et l'impératrice. On dit même qu'une femme du monde, pour l'ouverture de son salon, l'invita à chanter pour attirer le public. Teresa donna naissance à toute une catégorie de chanteuses, car comme l'écrit Louis Veuillot, « Il faut partout, m'a-t-on dit, une chanteuse genre Teresa. Le Parisien ne se croirait pas dans un café chantant s'il n'avait sa Teresa et sa chanson Teresale. » Car la vraie Teresa gagne 100 000 francs. Vous jugez ce que peut être la Teresa d'un café en faillite. Touche à tout, le critique les appelait des prima gueulas de la chope. Il y eut parmi ces chanteuses Victorine Demey qui reprit « Rien n'est sacré pour un sapeur » créé en 1864 par Teresa. Je vous laisse écouter la version chantée par Henriette Leblond, surnommée la Teresa moderne, en 1927. Car malheureusement, nous n'avons aucun enregistrement de Victorine Demey, morte fin 19e, et encore moins de Teresa. Voici donc « Rien n'est sacré pour un sapeur ».
Celui que dit mon cousin, et comme de juste je l'invite à prendre quelque chose, un verre de vin, même que c'était du Chambertin, même que c'était du Chambertin. Il me dit, ça trouve à mes réveils, je vous aide ton père, faites faveur. Oh, c'est mis dans une colère affreuse. Et ça finit toujours, c'est ainsi que ça finit toujours. Vous n'auriez pas besoin d'une bonne. Je ferai votre affaire, parole d'honneur. Oh, car je ne recevrai plus personne. Dis-moi, ça ne fera pas votre bonheur. Non, je ne recevrai plus personne. Dis-moi, ça ne fera pas votre
À propos de Victorine de Mai, Paulus, dans ses mémoires, écrit « Il y avait aussi la regrettée de Mai, l'excellente de Mai, celle qui cassait des noisettes en s'asseyant dessus. Sa chanson le disait, et sa vigoureuse structure semblait affirmer qu'elle en était bien capable. Elle a fait les délices d'hommes réputés graves, entre autres Renan, qui prisait fort la joyeuse artiste trop tôt enlevé à notre amitié admirative. Je rappelle que Renan était un écrivain et un historien, ancien séminariste, dont l'œuvre est consacrée à l'histoire des religions. Quant au critique littéraire Jules Lemaître, le très sérieux académicien, il écrit dans ses impressions de théâtre plantureuse et foisonnante, elle a une trogne hilare, tout en avant, arrondie comme une pomme, une grande bonté dans la bouche, une joie irrésistible dans les yeux, une diction franche et directe, une articulation irréprochable. Une voix bien timbrée, sans bavure, singulièrement mordante et coupante, qui vous entre dans l'oreille avec la netteté d'une balle à pointe d'acier. Et gaie avec cela, les chansons qu'elle nous chante ont du moins dans leur grossièreté de la verve et quelques couleurs. Avant de passer à une autre sorte de divertissement, je voudrais dire quelques mots de Paulus, qui fut l'une des grandes vedettes du café-concert de 1860 à 1894, année de son déclin. Il fit fureur aussi bien à Paris, New York, Londres ou Moscou. On lui doit deux énormes succès, Le Père la Victoire en 1888, mais en 1886, on lui doit En revenant de la revue. Je vous laisse écouter En revenant de la revue, interprété par Gabillard en 1942. Le succès phénoménal est dû au fait que Paulus, toujours au fait de l'actualité, eut l'idée géniale d'insérer le fameux vers « Admirer notre brave général Boulanger ». L'homme politique à la mode. Ce fut un délire.
Je suis le chef d'une joyeuse famille. Puis longtemps j'avais fait le projet d'emmener ma femme, ma soeur, ma fille voir la rue du 14 juillet. Après avoir cassé la croûte, en cœur nous nous sommes mis en route. Les fameux avaient pris le devant, moi je donnais le bras à belle maman. Chacun devait en porter, toi pouvoir rouloter. D'abord moi je portais les pruneaux, ma femme portait le jambonneau. Ma belle-mère comme fricot avait une tête de veau. Ma fille son chocolat et ma soeur deux œufs sur le plat. Gais et content, nous marchions triomphants en allant à Longchamp, le cœur à l'aise. Sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française. « bien à tout de Longchamp, on foule la pelouse. Nous commençons par nous installer, puis je débouche les 12 litres à 12, et l'on se met à saucissonner. Tout à coup on crie, vive la France, crédit, c'est la revue qui commence. Je grimpe sur un marronnier en fleurs, et ma femme sur le dos d'un facteur. Ma sœur qu'aime les pompiers, acclame cette guerre troupier. Ma tendre épouse bat des mains, quand défile les Saint-Syriens. Ma belle-mère pousse des cris, en reluquant l'Espagne. Moi je faisais qu'admirer notre brave général Boulanger.
J'étais content, nous étions triomphants, de nous voir à Longchamp le cœur en l'aise. Sans hésiter, nous voulions tous fêter, voir les compliments de l'armée française.
En route j'invite quelques militaires à venir se rafraîchir un brin. Mais à force de licher des verres, ma famille avait son petit grain. Je quitte le bras de ma belle-mère, je prends celui d'une cantinière. Et le soir lorsque nous rentrons, nous sommes tous complètement ronds. Ma sœur qui était en train ramenait un fantassin. Ma fille qui avait son plumet sur un cuirassier s'appuyait. Ma femme sans façon embrassait un dragon. Ma belle-mère au petit trot galopait son bras d'un turco.
Qu'est-ce qu'on a, nous avions pris nos bras, en revenant ton champ le cœur à l'aise. Sans hésiter, nous venions d'acclamer, voir et complimenter l'armée française.
Dans les grands classiques du divertissement lourd, l'on a le comique Troupier, que l'on retrouvera jusque dans les années 1970 dans des films comme Les Bidas ou La Septième Compagnie. Dans la chanson, les plus âgés d'entre nous se souviennent d'Ouvrard et de son « Je ne suis pas bien portant » que je vous laisse écouter.
Depuis que je suis militaire, c'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang-fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes. J'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patrinque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Afin de guérir au plus vite, un matin, tout dernièrement, je suis allé à la visite, voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'y ai répliqué. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareils, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin, et le bassin qui est pas sain. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patrinque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Avec une charmante demoiselle, je devais me marier par amour. Mais un soir, comme j'étais près d'elle, en train de lui faire la cour, me voyant troublée, elle me dit, qu'avez-vous? Moi j'y répondis. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôle, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur levure qui est trop dure, chez les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, chez les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareils, chez le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, chez les coudes qui se dessoudent, chez les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. En plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi, quel souci, la luette trop fluette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent, chez le palais qui est pas laid, mais les dents c'est navrant, chez les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les molaires se font la paire, dans les yeux c'est pas mieux, chez le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche, chez les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, chez le menton qui est trop long, les artères trop épaires, chez le nez tout bouché, le trou du cou qui se découle et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
Je voudrais finir cette émission sur l'inénarrable Joseph Pujol, dit le pétomane, pour qui se déplacèrent des foules. Le prince de Galles, et Freud en personne, allèrent l'écouter jouer au clair de la lune en émettant des gaz intestinaux. Dommage, nous n'avons pas d'enregistrement. Vous constatez que notre époque n'est en rien novatrice, si ce n'est dans la manière de mettre ce divertissement quelque peu lourd en avant sur la culture, en médaillant un Francky Vincent pour « Tu veux mon zizi ?» mais en oubliant de rééditer les trois quarts des auteurs du XIXe siècle, ou bien en ne diffusant plus d'émissions de la teneur des dossiers de l'écran, du grand échiquier de Jacques Chancel, d'apostrophe ou de lecture pour tous. Émission qui date des années 1957. Connaître ces classiques n'empêchait pas ces foules d'aller s'amuser à écouter Teresa ou les gaz du pétomane. L'on savait juste mettre les choses à leur place. Afin de donner une idée de la teneur de certaines émissions destinées au grand public en 1957, année où Annie Cordy chantait Cigarette, Whisky et Petite Pépée, je vous laisse sur un extrait d'une interview de Céline par Pierre Dumayet pour l'émission télévisée Lecture pour tous, que les professeurs de français conseillaient à leurs élèves à l'époque.
Vous posez une dernière question, puis exactement vous demandez un dernier mot. La mode est au mot de la fin en ce moment. Vous m'avez dit tout à l'heure, mes dernières paroles, si j'en avais, ce serait...
Oh ben, c'est-à-dire que voilà, je vois dans ces flots d'invectives, je vois surtout des gens qui boivent, qui mangent, qui dorment, qui font toutes les fonctions humaines, qui sont toutes assez vulgaires. Et je dirais qu'ils sont lourds, et leur esprit est lourd, c'est ça qui me semble surtout. Il n'a jamais cessé d'être lourd. J'ai remarqué, j'ai lu tellement de vers, et particulièrement des vers du 17e, des vers soi-disant galants. J'en ai trouvé 3-4 de bons sur des milliers, n'est-ce pas ? Il y a très peu de légèreté chez l'homme. Il est lourd, n'est-ce pas ? Et alors maintenant, il est extraordinaire de lourdeur. Depuis l'auto, l'alcool, l'ambition, la politique, le rendent lourd, encore plus lourd. C'est ce fait qu'il est extrêmement lourd. Nous verrons peut-être un jour une révolte de l'esprit contre le poids, n'est-ce pas ? Mais c'est pas pour demain. Pour le moment, on est lourd, alors... je dirais en effet, si j'avais à mourir, j'ai dit, il était lourd, voilà, c'est tout. Oh, ils étaient méchants, parce qu'ils étaient lourds, n'est-ce pas ? Ils étaient lourds. Alors, ils étaient lourds, jaloux d'une certaine légèreté. Ils sont jaloux, comme jaloux une femme qui porte un couti, n'est-ce pas, contre celle qui porte une vêtue de dentelle, comme celui qui a un percheron contre un pur sang. Jaloux d'être lourd, n'est-ce pas, c'est tout. Infirme. Ils pèsent, hein, ils sont infirmes, n'est-ce pas. La lourdeur les rend infirmes. Par conséquent, on peut se méfier d'eux. Ils sont prêts à tout. Oh oui, toi, t'as tout. Ils sont prêts à tout. Et pour activer encore la lourdeur, ils boivent, n'est-ce pas. Alors quand ils boivent, C'est des marteaux pilons. C'est effrayant. Quoi. Et des marteaux pilons sans contrôle. Oui, c'est surtout ça qu'ils ont. Ils activent, ils augmentent leur poids au lieu de se rendre légers. Alors, ils ne sont pas du côté d'Ariel. Ils sont de plus en plus calibants. De plus en plus.
Merci.
Alors, à bientôt pour une prochaine émission de Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM ou sur mon site chroniquedunsiècle.com. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier
sur Radio Boomerang 89.7 FM.